Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marie, alias Sleeping Beauty, pour parler des coulisses de l'influence et de la conception d'une marque alignée avec ses engagements, ses passions et sa mission. Après des années de création de contenu autour du bien-être et de la beauté holistique, Marie, sous le pseudo de Sleeping Beauty, se lance dans une toute nouvelle aventure entrepreneuriale, celle de la création de sa marque Maison Tuferie. Deux formes d'entrepreneuriat, deux odyssées qui lui permettent de grandir, de s'épanouir et de contribuer à sa manière à elle, à un monde qui va mieux. Alors avec Marie, on parle des coulisses de tout ça. Tant de son parcours dans la création de contenu et d'une communauté soudée et engagée, que du processus de création d'une marque de produits bien-être et lifestyle et de toutes les mésaventures qu'il peut y avoir autour. Et le clou du spectacle se trouve évidemment à la fin, avec la révélation d'un rêve qu'elle a failli réaliser il y a 5 ans, mais qui n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, c'est une très belle revanche que Marie a pris. Alors j'espère que notre échange te plaira, t'inspirera, et te permettra d'avancer dans ton entreprise avec ambition, joie et envie d'oser. Si c'est le cas d'ailleurs, n'oublie pas d'aller nous le dire sur les réseaux, notamment sur Instagram. Tu as les liens de nos comptes dans la barre de description juste en dessous. On a toutes les deux vraiment hâte d'avoir ton retour sur tout ça. Alors sur ce, je te laisse pour notre belle conversation. Hello Marie, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? C'est une question hyper importante quand même.
Eh ben, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait super plaisir. J'ai pas l'occasion de faire souvent des podcasts. Alors, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Et je vais parfaitement bien en ce début d'année, très motivée et de beaux projets pour 2024. Et toi, comment vas-tu?
Eh ben, super bien aussi. Un grand soleil dehors et très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi. Faire découvrir ton univers, ta personnalité ou faire découvrir autrement pour celles et ceux qui te connaissent déjà avec tous ces projets que tu nous as lancés là depuis pas mal de mois, notamment au-delà de ce pourquoi on t'a connu jusque là où voilà, t'es créatrice de contenu sur YouTube, sur Instagram, sur plein d'autres choses. Et là, tu nous lances avec depuis quelques mois avec Maison Tuferie, plein de très, très belles choses. Est-ce que tu peux rapidement nous partager ton parcours? Comment est-ce que déjà de base, t'es arrivée peut-être dans le domaine de la création de contenu, de l'influence, comme on dit? Et puis ensuite, on parlera de cette aventure que tu as commencé il y a quelques mois avec Maison Tuferie.
Bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis née à Troyes et je suis allée faire mes études à Paris à 18 ans. Et lorsque j'étais à Troyes, j'avais une activité créative qui était l'école des Beaux-Arts. J'étais élève pendant 10 ans là-bas. Et lorsque je suis arrivée à Paris, je cherchais à renouer un peu avec cette créativité qui me manquait beaucoup. Donc je me suis dit, ok, je regarde des vidéos YouTube, le montage, ça a l'air super sympa. Je regardais Casey Neistat à l'époque, je l'adorais. Et j'ai commencé pour ça en fait, pour le montage, même pas pour avoir une communauté ou des abonnés ou ni même donner des conseils. C'était vraiment juste pour le kiff de faire du montage. Et j'ai adoré tout de suite. Donc j'ai continué à faire des vidéos et j'ai commencé à me créer une petite communauté qui me demandait des questions concernant le skincare au début. Donc j'ai commencé avec ça. Et ensuite, des soins de la peau. Est arrivé le thème de l'alimentation, parce que pour avoir une belle peau, faut quand même bien manger, puis ensuite faut bien dormir, et puis ensuite voilà, et puis c'est comme ça que je suis arrivée au thème très général qui me plaît tant du bien-être, avec voilà plusieurs piliers, et c'est comme ça que j'ai commencé finalement. C'était vraiment pour le montage.
Énorme. Et je crois que je savais pas. Ah bah ouais. Ça fait combien de temps du coup? C'était en quelle année?
Alors, pour être très honnête, j'ai commencé en 2015, mais vraiment pas régulièrement. Tu vois, c'était juste, c'était à côté de mon école de commerce, donc j'avais pas non plus le temps de faire deux vidéos par semaine, d'alimenter Instagram, etc. Donc c'était vraiment pour le plaisir entre guillemets, même si ça reste un plaisir, mais maintenant c'est ma profession également. Et je crois que c'était l'été 2019, je me suis dit, ok, je vais me mettre à fond dans YouTube et je vais faire 2 vidéos par semaine à partir de cet été. Et c'est là vraiment que ça a commencé. Alors, je sais plus si c'était 2018 ou 2019, mais voilà. Tu vois.
Et tu t'es tout de suite dit que ça allait être un métier, quelque chose qui allait te rémunérer, te permettre d'avoir un salaire?
Pas du tout. Non, okay. Non, pas du tout. Mais tu sais, à l'époque, en fait, je suis même pas sûre qu'on était déjà rémunérés. Enfin, j'avais en tête l'aspect financier, rémunération. Je te dis, c'était purement du plaisir, sans aucune arrière-pensée, ni même de recevoir des produits ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment juste exprimer ma créativité. Et ensuite, je voulais juste aider les gens et avoir une communauté qui s'entraide, etc. Parce que de plus en plus de personnes sont venues et j'ai adoré cet esprit parce que j'ai jamais eu trop de haters. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté. Voilà, on est une communauté de filles parce qu'on est 97% de filles sur ma chaîne, donc je peux le dire. Et voilà, c'est vraiment good vibes, on s'entend bien, on se laisse des petits commentaires. J'ai toujours eu à cœur de répondre à mes commentaires, même si aujourd'hui c'est difficile de répondre à tous. Mais voilà, toujours ce côté un petit peu bon enfant limite. De ok, je te partage mes conseils de beauté, de bien-être, etc. Voilà.
Ok. Et comment c'est arrivé du coup? Si, complètement. C'est hyper intéressant du processus de d'abord, et c'est même vital, je crois, aujourd'hui, pour n'importe quel entrepreneur, n'importe quel créateur, de le faire d'abord pour son kiff à soi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle et ne pas, que l'objectif ce soit pas basé sur les autres, sur ce que peuvent dire, penser ou faire les autres, ou devenir client ou quoi, mais juste soit le kiff d'écrire, de partager, de filmer, de monter, de quoi que ce soit.
Et tu sais, c'est un vrai nécessaire conseil, ouais. Parce que au bout d'un moment, ça deviendra difficile. Même si tu commences avec le plaisir de faire des vidéos, etc., t'es trop excité, au bout d'un moment, tu manqueras un petit peu d'idées, tu manqueras peut-être un petit peu de motivation. Ce sera difficile, t'auras certains problèmes. Et en fait, il faut vraiment que ça tienne à cœur, peu importe ton activité professionnelle. Il faut que tu fasses un truc qui te plaise, parce que c'est dans ces moments où c'est difficile que tu vas chercher dans ta passion, que tu vas puiser et que tu vas te dire « Non, vas-y, je fais ça pour les bonnes raisons, parce que j'aime vraiment ça, et non pas pour un but financier ou de reconnaissance ou autre. » Parce que sinon, tu vas abandonner. Si t'aimes pas vraiment ce que tu fais, au bout d'un moment, tu vas craquer et tu vas abandonner, quoi.
Ouais, clairement, je pense qu'il faut effectivement de l'amour et du sens, un truc qui va au-delà de toi aussi, pour te dire c'est pas pour juste moi que je le fais, ou c'est pas pour la reconnaissance ou pour mon ego ou pour je sais pas qui ou quoi, mais pour ouais, quelque chose qui me dépasse, comme toi tu le fais avec les conseils que tu partages. C'est mine de rien, ça peut être des choses très simples, mais qui, quand on les applique au quotidien, peuvent vraiment changer la vie sur le long terme, en fait.
Ben oui, j'ai eu des très très beaux messages comme ça, de retour d'expérience, de témoignages, avec, comme tu dis, des conseils tout simples, mais qui répétés et dits avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amour et dans l'idée vraiment d'aider les gens. Des très très beaux messages de personnes qui m'ont dit « tu m'as aidé dans mes troubles du comportement alimentaire ». Alors, même si je suis absolument pas une professionnelle de santé, mais justement, il y a ce côté peut-être un peu copine qui pousse les gens à se dire « ok, ça a fonctionné pour elle, je vais essayer, etc. » Elle dit ça gratuitement, tu vois, juste pour m'aider, bon... Et ouais, je suis super contente de tous les retours, et justement des gens qui prennent le temps de me dire tout ça, c'est incroyable, vraiment, ça me fait trop plaisir.
Et tu saurais dire comment t'as... Ouais, carrément, j'imagine. Tu saurais dire comment t'as réussi à créer cette communauté, justement, de nanas qui soutiennent, qui, je sais pas si elles vont se rencontrer entre elles ou quoi, mais elles savent peut-être que chez toi, elles sont toutes pareilles. Enfin, il y a quelque chose qui rassemble, qui unit. Comment est-ce que tu l'as créé, tout ça? Est-ce que c'était conscient, ou est-ce que tu le vois avec le recul plutôt?
Bah, je pense justement que c'est parce que c'était inconscient que ça s'est créé, et que j'ai jamais eu une stratégie, si tu veux, de me dire ok, je vais faire ce type de vidéo pour attirer ce type de personnes. Non, pas du tout. J'ai fait en fonction de mes goûts du moment. Tu vois, ma chaîne, elle a vraiment évolué au fil du temps, et je me suis jamais dit ok, attention, si je parle de ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont se désabonner. Et c'est peut-être justement le fait que je sois naturelle, authentique, et que je partage vraiment mes centres d'intérêt au jour le jour, qui a fait que les gens ont aussi grandi avec moi, que ça leur a donné envie justement de découvrir certains thèmes que je n'abordais pas avant et que j'aborde maintenant. Je me mets vraiment aucune limite et je pense que ça, c'est depuis les weekly vlogs aussi que je partage un petit peu plus mon quotidien. Et les gens aiment beaucoup et moi, c'est le premier type de vidéo que je regarde, ce sont les weekly vlogs aussi dans les youtubeuses que je suis. Et j'adore parce qu'il y a un côté très authentique, naturel, rien n'est calculé, il n'y a pas de script et je pense que c'est grâce à ça que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une communauté qui est si gentille, bienveillante, parce que je cherche pas d'histoire non plus. Et voilà, si tu veux, je suis naturelle, je suis moi-même. Et je pense que oui, ça plaît aux gens, le côté, ok, bah finalement, elle, bien sûr, on a un masque en société, on l'a tous. On n'est jamais pareil que lorsqu'on est vraiment tout seul avec soi-même. Mais j'essaie pas de jouer un rôle. Or, beaucoup de personnes l'ont cru au début, se sont dit « Ouais, cette fille, elle est super disciplinée, sa vie, elle a l'air parfaite, etc. » Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Et voilà, je suis extrêmement reconnaissante, mais je joue pas un rôle. Et à force de faire des vidéos comme ça, les gens se sont rendus compte que, bah non, en fait, j'étais moi-même et que j'étais, enfin, que j'avais l'air sympa, quoi, je pense.
Énorme. Ouais, effectivement, c'est, tu t'es autorisée à évoluer et à faire évoluer aussi ton contenu en fonction de toi, de qui tu es et pas de ce que les gens voulaient ou de ce que les gens aimaient ou de ce que tu croyais qu'il ou elle allait aussi apprécier. Donc, exactement. Ouais, c'est hyper important même de s'autoriser ça. Sinon, on se perd soi-même, on perd ce sens et ce plaisir dont on parlait juste avant.
Tout à fait. Cool.
Et du coup, t'es youtubeuse, bah voilà, 2019, tu te lances. C'est quoi les premières marques qui viennent vers toi? Comment tu commences à gagner de l'argent avec tout ça après?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance de croiser sur mon chemin mon agente qui s'appelle Léa, qui est venue me chercher lorsque j'avais 30 000 abonnés. Donc vraiment, j'étais un bébé sur YouTube et qui m'a dit... alors, qui est venue avec une campagne pour une marque de beauté à l'époque et qui m'a dit, tiens, ils ont beaucoup aimé ton profil, est-ce que ça te dirait de faire ce tournage? Et puis tu pourrais éventuellement entrer dans notre agence parce que voilà, on a des choses à te proposer. Alors moi, comme je te disais, j'avais pas du tout pensé au côté professionnalisant ni au fait de faire de l'argent avec mes vidéos. Mais elle est venue avec une approche tellement naturelle, tellement sympa, je me suis dit en fait ça peut être cool de se faire aider, de pas être tout seul dans cette aventure, d'avoir des conseils pour faire ces vidéos et donc j'ai fait ce tournage et je suis restée avec cette agence et je pense que ça fait 5-6 ans que je suis avec eux et j'ai jamais bougé. On m'a proposé d'aller dans d'autres agences et j'ai dit non, je reste avec Léa, avec Jérémy, voilà, j'adore mon équipe, ils sont trop sympas et on fait de belles choses ensemble et il y a vraiment ce côté humain qui prime. Et alors pour revenir au partenariat et aux marques avec qui je travaille, ça je le dis jamais, mais je refuse 80% des partenariats qu'on me propose parce que pour moi c'est important de promouvoir uniquement les marques que j'utilise, que je sais bonnes pour l'homme, pour l'environnement, etc. C'est hyper important pour moi. J'ai refusé des grandes marques parce que, justement, elles ont pas ce côté éco-responsable, parce que la composition de leurs produits n'était pas bonne et parce que ça collait pas avec mes valeurs, quoi. Donc, c'est pour vraiment, c'est jamais l'argent en premier, c'est jamais l'enveloppe qu'on m'offre, c'est toujours, ok, est-ce que ça va pouvoir améliorer la vie des gens? Est-ce que les gens vont être contents de ça? Parce qu'il y a mon image aussi derrière. Imagine, les gens, ils achètent un produit après que j'en ai fait la promotion, ils se disent, bah attends, c'est nul, j'ai pu lui faire confiance. Ouais. Donc, je veux vraiment promouvoir uniquement ce en quoi je crois, quoi.
C'est effectivement, ça paraît primordial et je pense que ça se ressent beaucoup dans tout ce que tu crées. Est-ce que tu veux bien juste expliquer comment ça fonctionne une agence? Tu vois, pour toutes les personnes qui sont pas forcément dans ce milieu de la création de contenu et des partenariats, oui. C'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'ils font et comment toi tu gères les choses?
Alors mes agents, ils gèrent toute la partie justement partenariat et négociation commerciale pour que je me concentre uniquement sur la partie création de contenu. Donc moi, je fais des vidéos, je fais le montage, je fais les descriptions, je fais enfin toute la partie vraiment créative, les idées, etc. Et mes agents, ils vont soit démarcher des marques. Par exemple, j'ai testé un produit, je l'ai trouvé génial. Je me dis, ok, je veux trop travailler avec cette marque parce que j'adore leurs produits. Et donc, on va leur demander si je peux être leur ambassadrice. Donc ça, c'est numéro 1, démarchage commercial. Numéro 2, le plus fréquent, je vais pas te mentir, les marques écrivent à mon adresse professionnelle, qui est ouverte par mes agents et ils répondent à tous les emails de demandes de partenariat. Donc c'est des marques qui arrivent, coucou, on adore le profil de Marie, on a une campagne, on voudrait promouvoir ce produit-là, on a ce budget-là, voilà ce qu'on vous propose. Soit le budget est trop petit, mon agent négocie pour que ce soit du win-win, si tu veux, parce que bien sûr, quand je fais la promotion d'un produit, ça génère des ventes et donc faut que ce soit assez juste. Donc voilà, ils font la négociation commerciale. Ensuite, la marque envoie un contrat qui relise, etc., que je signe. Et ils envoient une forme de brief. J'ai toujours à cœur de présenter le produit avec mes mots, si tu veux, avec mon expérience, avec mon vécu. Mais parfois, les marques ont certains mots-clés qu'ils aiment entendre dans les campagnes. Donc, je vais essayer de comprendre leur langage, ce qu'ils veulent que je mette en avant, et de redire ces mots un petit peu à ma manière, parce que voilà, c'est toujours comme ça. J'ai jamais un brief que je lis, si tu veux. Ça, c'est niette. Je dis non direct. Non, je veux pas travailler avec vous.
Ah, t'es pas une comédienne au théâtre qui redonne.
Ah ben pas du tout. Mais voilà, on perd tout l'intérêt. Sinon, faites une publicité à la télé, quoi. Mais si vous embauchez des influenceurs, c'est parce que vous aimez justement leurs valeurs, leur manière de s'exprimer, que vous aimez leur manière de présenter les produits, il faut que ça reste naturel. Donc, voilà comment ça se passe. Ensuite, je présente le produit dans une vidéo. J'envoie ce qu'on appelle une preview, c'est-à-dire que c'est le placement de produit monté tel qu'il va être dans la vidéo à la marque qui valide ou qui demande certaines modifications. Mais en général, voilà, c'est validé. Et ensuite, je poste la petite vidéo. Voilà comment ça se passe.
Ok, trop cool. Donc toi aussi, t'as tes critères, t'as peut-être une grille de tarifs selon ce qui t'est demandé, et puis ton agent est là pour faire le médiateur et faire en sorte que toi tu sois bien rémunéré et que t'es juste entre guillemets à faire la partie création, montage et compagnie.
À faire le plus important, pêche.
Ah oui, clairement. Non, je le minimise absolument pas.
Mais
bien
non,
au contraire. Et d'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir comment t'arrives à avoir autant d'idées, autant de créations. Enfin, tu postes tous les jours sur Insta, deux fois par semaine sur YouTube, tu fais plein de trucs. T'as lancé ta newsletter aussi, je crois, il n'y a pas longtemps. Enfin, en tout cas...
Alors, c'est la newsletter du calendrier de l'après, parce que oui, c'est un nouveau challenge, ça. Tous les jours, tout le mois de janvier, je voulais faire un calendrier de l'après, parce qu'il y a tellement de calendriers de l'avant et des vlogmas et tout. Moi-même, j'ai fait les vlogmas, mais j'avais envie de quelque chose, justement, après les fêtes, où on se remet un petit peu dans le bain, on reprend notre vie en main, on est motivé, etc., à commencer l'année sur de bonnes bases. Et donc, voilà, tous les jours, je poste une vidéo sur un thème différent du bien-être et j'envoie une newsletter à la fin de chaque semaine, donc 4 newsletters en janvier. Et pour répondre à ta question justement des idées de vidéos, en fait, ça fait partie de ma personnalité d'être créative. Comme je te disais au tout début, moi, YouTube, j'ai commencé parce que je cherchais une activité créative. Et j'ai toujours une idée à la seconde. Ma mère, elle te dirait, non, mais attends, t'as encore une idée, c'est pas possible. Donc oui, j'ai toujours une nouvelle idée et c'est ça qui me fait vibrer, c'est d'avoir des nouveaux projets, de les mener à bien sûr, pour que ça ne reste pas des rêves, mais que ce soit vraiment des objectifs que je concrétise et tout. Donc, bien sûr, à certaines périodes, je manque un petit peu d'idées, je me dis mince, j'ai l'impression d'avoir un petit peu tourné en rond, etc. Et c'est là que je m'adresse à ma communauté et que je leur dis, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Aidez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez des questions, des challenges auxquels vous faites face en ce moment. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde? Et ma communauté m'aide d'une grande, grande aide parce qu'ils sont d'un soutien incroyable. Dès que je leur dis, aidez-moi, dites-moi, etc. J'ai une multitude d'idées, de questions qui me redonnent justement un élan de motivation et de créativité. Donc, au final, oui, tout va plutôt bien de ce côté-là.
Génial. Donc, tout ce lien, cette communauté que tu as créée, ça te sert aussi, toi, à te nourrir, à continuer d'avancer et à... c'est un cercle vertueux, en fait, que tu as mis en place. Et où... il te redonne aussi, je pense, du sens et de l'élan de... parfois, on se dit, ouais, mais non, je sers à rien, je répète la même chose que tout le monde, ou ça, j'ai déjà dit, j'ai fait le tour, etc. Et puis, en fait, non, tu te rends compte qu'il y a encore de la demande, des besoins, et que ça peut encore servir plein de gens.
Bah, en fait, c'est là qu'on voit la différence entre une audience et une communauté, je trouve. L'audience, t'es vraiment un petit peu en... tu fais ton show, tu vois, sur YouTube, et les gens sont des spectateurs. Alors que quand t'as une communauté, c'est que tu t'adresses directement à eux avec ce lien qui est très spécial et qui fait vivre en fait ton métier, tes vidéos et la communauté comment dire, grandi parce que ils voient qu'il y a une bonne ambiance et ils voient que c'est donnant-donnant, tu vois. C'est pas, je suis pas en train de leur donner des conseils et d'avoir ce mur, cette barrière et d'être froide. Non, c'est pour ça que je disais que j'essaie de répondre à tout le monde et de, oui, et de considérer un petit peu ma communauté comme, comme des copines, même si on se connaît pas forcément, qu'elles connaissent beaucoup plus de ma vie que moi, je connais la leur. Mais voilà, c'est vraiment ce lien de confiance, en fait, et d'entraide, parce que mes abonnés me donnent d'excellents conseils dans les commentaires, d'excellentes recommandations, et j'enrichis beaucoup mon contenu grâce à elles aussi.
Génial. Et du coup, si on vient là maintenant au cœur du sujet, en tout cas de tes dernières aventures avec Maison Tuféry, qu'est-ce que c'est déjà Maison Tuféry et qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer ?
Maison Tuféry, c'est ma marque lifestyle, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça en français, style de vie. Enfin, si tu veux, je fais des objets qui sont à la fois beaux, parce que pour moi, le beau a une grande part dans ma vie. Je trouve ça hyper important. Beau, éco-responsable, utile quand même, efficace. Donc, c'est plutôt des objets de bien-être, bien sûr. Donc, j'ai commencé avec le planeur holistique. Le journal, voilà.
Le fameux.
C'était mon premier produit que j'avais fait en beige. Maintenant, j'avais fait une édition de Noël en vert. Et donc, c'est une marque qui, pareil, n'a pas vraiment de stratégie. Donc, c'est-à-dire que c'est au gré de mes envies, comme mes vidéos YouTube. Là, tu vois, au début, j'avais envie de créer un agenda parce que pour moi, la discipline, l'organisation, le fait de faire des to-do list, de faire des bilans, je trouve ça hyper stimulant, motivant. Parce qu'à l'origine, je suis pas du tout une personne organisée aussi. Je pense que c'est pour ça. J'ai créé un produit pour moi et aussi parce que je savais que ça pourrait aider ma communauté à se sentir mieux. Et voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Et là, je suis en train de créer le deuxième projet. J'en ai pas encore parlé. Je vais en parler le mois prochain. Trop, trop contente aussi. Et donc, si tu veux, c'est une marque qui est au gré de mes envies et toujours... avec mes valeurs, là par exemple ce planeur, tout est fait en France. C'est-à-dire que même les serveurs de mon site sont français. Ça me tenait vraiment à cœur et aussi de travailler avec des petites entreprises troyennes notamment. Il y en a beaucoup qui sont autour de Troyes parce que je suis née à Troyes. Je trouve ça important de faire travailler des petites entreprises. C'est elles qui en ont le plus besoin finalement. Donc voilà, écoute, c'est... Voilà comment je définirais mes autres Tuféry, c'est un rêve aussi et je pense que c'est important pour moi de d'aller plus loin que les vidéos. Tu sais, lorsque tu crées quelque chose de digital, même si c'est des créations que tu fais deux fois par semaine, etc., c'est pas tangible. Et j'avais envie de quelque chose qui soit la matérialisation concrète, que je puisse toucher de mon travail. Et voilà, je trouve ça formidable d'avoir un objet chez moi et de me dire que ma communauté peut avoir une petite part de notre lien en fait chez elle.
Donc voilà, oui, complètement. Et est-ce que c'est aussi, moi je me suis posé la question de est-ce que c'est aussi une volonté peut-être d'anticiper l'avenir ou de te dire bah j'ai envie d'autre chose que juste YouTube ou est-ce que tu le vois vraiment à équivalent de YouTube ?
Anticiper peut-être inconsciemment, peut-être inconsciemment effectivement. Mais comme je te dis, je vis un petit peu au jour le jour au gré de mes envies, etc. Et j'ai pas vraiment une stratégie à me dire, ok, alors dans 10 ans, j'arrête YouTube, je fais ça, non, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Et je me mets pas de barrière, j'ai envie de créer une marque, j'ai envie de faire un planeur, je le fais, tu vois. Et j'essaie d'aller plus loin que les peurs que ça fonctionne pas, les peurs que quand dira-t-on, etc. Donc, j'ai oublié ta question. Ah oui, est-ce que c'était une anticipation ?
Oui, c'est ça. C'est dans quel but ? Est-ce que parce que t'as envie de te détacher de YouTube et tu dis bah je vais pas être influenceuse toute ma vie ou juste ?
Non, pas du tout. J'ai envie de... en fait, c'était vraiment ça, d'avoir quelque chose de tangible et juste de créer. À l'origine, je voulais être designer ou architecte d'intérieur. Donc, tu vois, créer des produits pour la maison et créer des... designer, en fait, ça, c'est un truc qui n'existait pas. Tu vois, je suis pas partie d'un modèle. J'ai vraiment créé de A à Z. Donc, je pense que ça répond aussi à mes rêves d'enfant de créer des objets et d'exprimer ma créativité et de pouvoir toucher ce que j'ai créé, ce que je peux pas faire avec les vidéos. Donc, c'est... En fait, je me suis créé un autre métier à côté de YouTube. Bien sûr, c'est lié, mais c'est deux fois plus de travail, franchement. Donc ça va que c'est passionnant. On en revient au début du fait de qu'il faille être passionné par ce que l'on fait pour justement rester debout dans les périodes où c'est difficile, où on a des problèmes, parce qu'il y en aura toujours. Mais voilà, c'est un deuxième métier.
Carrément. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu vois, t'as eu l'idée, ok, je crée un planeur, ce sera le journal.
Oui.
Une fois que t'as eu l'idée, ça a été quoi les grandes étapes? Je sais que t'en as partagé certaines dans des vidéos, mais globalement, là, si tu devais nous résumer le parcours pour passer de l'idée d'un carnet, là, pour le coup, à je le tiens dans mes mains et il y a des centaines de milliers peut-être de personnes qui l'ont aussi chez elles.
Eh bien, écoute, j'ai partagé tout ça dans mes vlogs. Ça m'a vraiment amusée d'être hyper transparente sur tout le processus de création. Et c'est pourquoi, dans chaque weekly vlog, je partageais l'avancée, justement, de ce planner. Au début, j'ai commencé avec ce que j'allais mettre à l'intérieur, tout simplement. Je suis allée sur Canva et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, comment se présenter une page, etc. Vraiment le côté hyper créatif de, ok, comment va être le planner. Ensuite, j'ai un chef de projet qui s'appelle Marc, que j'ai présenté dans mes vidéos, qui est troyen et qui est spécialisé dans l'impression et qui connaissait mon imprimeur qui est à Sens et donc qui nous a mis en contact, si tu veux. Et donc, cet imprimeur m'a dit, ok, quelle couverture tu veux? Ah bah, je veux une couverture en tissu. Ah bah, ça se fait plus, mais on va le faire quand même, ok. Parce que si tu veux, je voulais une couverture en tissu, mais française. Il y en a beaucoup en Europe de l'Est, etc. Et si tu veux, ce type de reliure-là, ça se fait plus aujourd'hui. Donc, ça leur a plu aussi de renouer avec le côté, la vraie papeterie, tu vois, à l'ancienne et tout. Et donc si tu veux, c'est avec eux qu'on a avancé pour trouver le type de feuille, la couverture en lin, etc. Ensuite, pour le marquage à chaud, je voulais un marquage à chaud. Je voulais rester en France aussi. J'ai trouvé une entreprise à Lyon qui existe depuis 150 ans, je crois, une entreprise hyper familiale. Donc voilà, tout ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je veux que ce soit français, allons trouver en France les prestataires. Et ensuite, pour la première édition, on a tout fait nous-mêmes en termes de packaging et d'emballage. J'ai demandé à mes parents, allez, venez, on va emballer mes planeurs. Ils étaient ravis. Parce que ils se sont dit, mais Marie, t'es folle, regarde les quantités. Ah oui, oups, je me suis pas rendu
compte. T'en as vendu ça. La première édition, c'était combien de planeurs?
Plusieurs milliers.
Putain.
Plusieurs milliers de planeurs. Et il y en a eu le double pour la deuxième édition. Mmh. Et pour la deuxième édition, je me dis, non, maman, papa, ne vous en faites pas, vous n'allez pas emballer les planeurs. Et donc, j'ai fait appel à une entreprise, justement, qui m'a aidé à emballer le petit papier de soie, l'étiquette, etc. Parce que, voilà, ensuite, tu dois avoir en tête toutes les étapes de la création. Donc, ça va, justement, du design du livre, à la conception, ok, comment on va le faire, couverture, etc., page, machin. Ensuite, tu dois avoir en tête le packaging dans lequel il est emballé. Est-ce que tu veux un petit papier de soie? Est-ce que t'en veux pas? Est-ce que tu veux une étiquette? Est-ce que, voilà, moi, j'ai fait un marque-page en papier ensemencé parce que je trouvais plus sympa ça plutôt qu'une carte de remerciement classique. Donc, ok, on va faire ça. Ensuite, il faut le carton d'envoi avec des dimensions spéciales. Donc, tu vois, t'as tout ce processus. Et tu dois mettre ça en place, ouais, c'est pas mal de travail.
Bah, carrément, et du coup, c'est plein de contacts aussi, mine de rien, à avoir.
Oui.
Tu m'as parlé de Marc, qui a été peut-être... Oui. C'est lui qui t'a mis en contact ou qui t'a accompagné, en tout cas, pour toutes ces étapes?
Marc, c'est le pilier.
Marc, sans Marc, il y a rien.
Ah oui, sans Marc, rien, c'est clair. Marc, c'est une personne qui a énormément de contacts, qui a un réseau formidable parce que il est dans l'impression. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont imprimées. Tu regardes n'importe quel objet autour de toi, il y a de l'impression dedans. Donc si tu veux, Marc, il connaît beaucoup beaucoup de personnes et c'est mon chef de projet. Je lui ai dit, ok, tu vas m'accompagner dans tous mes projets, même ceux qui sont pas directement liés à l'impression. Et donc il va faire des recherches. En vrai, c'est tout bête, hein. T'as besoin d'un prestataire, tu vas sur Internet et tu tapes, fournisseur de ce que tu veux. Et ensuite, c'est beaucoup de temps Et mais voilà, enfin ça tombe pas du ciel, faut chercher. Aujourd'hui on a un outil formidable qui est Internet, qui te permet justement de trouver des gens, ne serait-ce que sur LinkedIn ou autre. Il en a trouvé pas mal sur LinkedIn aussi. Et donc voilà. Après, génial. Si tu veux, c'est bien de déléguer. Moi, j'aurais jamais eu le temps de faire tout ça, me concentrer uniquement sur la partie créative, à la fois de mes vidéos et aussi de la création de mes produits. Je fais tout le côté création, voilà. J'aurais jamais eu le temps de démarcher les gens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de préciser que je suis pas toute seule et qu'il y a des gens qui m'aident et que c'est important de déléguer. Et qu'en fait, quand tu commences ton entreprise, même si t'es solopreneur, tu vas devoir travailler avec des gens justement si tu veux faire encore plus des produits physiques comme ça. Donc c'est important de rappeler que vous pouvez pas vous lancer comme ça tout seul dans l'aventure. Vous avez besoin déjà d'aide, un soutien mental, moral, je sais pas comment on dit, mais de la part de tes amis, de tes proches, de t'éloigner un petit peu des gens qui ne te soutiennent pas justement et qui sont un petit peu jaloux, qui ont peur pour toi et qui essaient de justement te dire « Ah, doucement, fais attention, tu pourrais perdre du temps et de l'argent », et de t'entourer des gens qui te disent « Ouais, vas-y, fonce, c'est une idée géniale », etc. Donc déjà, on a ce soutien qui est hyper important psychologiquement. Et ensuite, bien sûr, on a le soutien de l'aide que les personnes vont t'apporter en étant professionnels spécialisés dans certains secteurs, que ce soit l'envoi, que ce soit le packaging ou autre, et qui vont te permettre justement de mettre bout à bout toutes tes idées et tout le processus de création de ton produit.
Et pour rester dans cette question des coûts, comment t'as fait avec le journal pour... Est-ce que t'as réussi à anticiper tous les coûts de création, les coûts de logistique, les coûts de ressources humaines aussi, mine de rien, parce que souvent c'est ça aussi qui coûte très cher et en même temps qui est hyper important et vital. Comment tu t'en sors à ce niveau-là? Est-ce que tu as réussi à être rentable dès le départ, dès le premier lancement du journal?
Oui, mais la rentabilité n'a jamais été une question que je me suis posée. En fait, si tu veux, je me suis vraiment concentrée sur la qualité du produit. Et j'ai pas essayer de me faire des grosses marges, pas du tout. Même au début, je me suis dit oh bah le premier produit, je vais pas forcément gagner de l'argent, c'est pas grave. En fait, je veux juste aller au bout de mon rêve et créer ce produit et aider les gens parce que je sais que ça va être cool et que ça va bien leur servir dans leur vie. Mais je me suis jamais posé la question de la rentabilité. Et au contraire, je me suis dit non, je veux du français, je sais que c'est plus cher, c'est pas grave, je veux un produit de qualité 100% français, éco-responsable jusqu'au bout. Et en fait, la conséquence lorsqu'on se concentre sur le produit, c'est justement que ça plaît aux gens et que ça fonctionne et qu'on en vend beaucoup. Après, j'avais un bon matelas de sécurité aussi. Et si tu veux, j'ai pas eu besoin de faire un crédit ou quoi que ce soit. Je me suis autofinancée. Mais voilà, si tu veux, je me suis concentrée sur la qualité du produit avant tout et ça a payé.
Ouais. Effectivement. Et du coup, t'as fixé le prix quand même du journal a posteriori, après avoir vu tous les coûts, ou tu l'avais déjà fixé avant d'avoir tous les coûts de matières premières, de logistique, de le petit papier ensemencé, le carton, le colis, que je sais, t'as dû changer en plus. J'imagine qu'il y a eu pas mal de galères et de, voilà, de petits couacs inattendus.
Alors, lorsque j'ai commencé à créer le journal, je me suis dit, je ne veux pas qu'il fasse plus de 35€. En fait, okay. J'avais un prix limite et je me suis dit, je veux pas que les gens dépensent plus de 35€ dans un planeur, même s'il est 100% made in France, etc. Parce que ça reste un planeur, ça reste un journal, et j'ai surtout pas envie de perdre la confiance de mes abonnés et de faire un prix qui est pas justifié, qui est trop élevé, tout ça pour gagner de l'argent. Non, je voulais vraiment rester honnête, parce que c'est une valeur qui est super importante pour moi, d'être juste, d'être honnête, et en fait j'avais un prix limite et j'ai dit ça à mon chef de projet. J'ai dit, Marc, on va faire un planeur 100% français à 35€ maximum. Il a dit d'accord, bon. Et bien nous allons demander pas mal de devis et voilà, si tu veux, j'avais ce prix limite et là je l'ai vendu à 34,90€ au final, et ça a résonné, tu vois, les gens ont dit c'est oui, effectivement, c'est un prix juste. Merci de proposer ce prix-là par rapport à la qualité du produit. Voilà.
Ok, génial.
Les gens étaient d'accord. Donc c'est bon.
Ouais. Et ça, c'est, tu as envie de le garder aussi pour tous les autres produits, les autres projets qui arrivent?
Oui, tout à fait. Là, par exemple, en fait, je pars d'un prix fixe que je veux pas dépasser. Là, par exemple, pour mon autre produit, c'est un produit qui sera moins cher que le planeur parce que j'ai eu quand même des étudiants qui m'ont dit « Ah, j'aurais voulu l'acheter, malheureusement, j'ai pas assez d'argent, j'aurais tellement aimé avoir un petit bout de toit chez moi. » Et donc, c'est aussi en pensant à ça que je me suis dit « Ok, le deuxième produit, on va le faire moins cher que le planeur. » Tout aussi 100% français, etc. Tu vas voir, ça va être trop bien. Mais j'avais toujours ce prix limite de « Ok, je veux qu'il soit un petit peu moins cher et je veux pas dépasser ce montant-là. » C'est important.
Ouais, je pense que fonction... c'est...
Oh, ouais, ça donne une limite, en fait. En fonction de ça, tu peux négocier avec tes fournisseurs, tu peux demander d'autres devis, mais voilà, t'as un seuil limite et je suis pas là à flamber sur les prix de mes produits Maison Tuf Ferry.
Ouais, je pense que c'est une chouette stratégie, d'autant plus quand on vend des produits. J'ai beaucoup de clientes qui se demandent, bah voilà, comment je fixe mes prix? Est-ce que au temps passé? Est-ce que juste aux matières premières? Est-ce que par rapport à la valeur que ça apporte? Il y a plein de manières de faire. Et je pense qu'effectivement, quand bah voilà, savoir pour qui c'est, déjà, tu connais ta communauté. Mm-hmm. Et du coup, tu sais, bah voilà, c'est des jeunes femmes peut-être qui ont pas non plus un compte en banque mirobolant derrière, pas mal d'étudiantes, ok, donc maximum tel prix. Et peut-être à partir de ça, bah, je fais de mon mieux. Peut-être que il y a des concessions à faire. Peut-être que, bah voilà, de temps en temps, ce sera pas exactement comme on le souhaitait. Mais au moins, c'est adapté aussi à la personne derrière et c'est fait avec le cœur et c'est fait de la meilleure manière possible pour lui rendre service et accomplir l'objectif de ce pourquoi on l'a créé.
Exactement.
Ouais, génial. Et ça, tu sens que ça, est-ce que ça t'apporte un nouveau souffle? Est-ce que tu as une sensation de renouveau avec ce projet qui dénote complètement de ce que tu faisais avant?
Ah oui, totalement. Ce sont de nouveaux challenges. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais je te dis, c'est un nouveau métier, en fait. Je me suis lancée dans un deuxième métier en parallèle du métier que je faisais. Et c'est, comme tu dis, c'est un vent de fraîcheur. C'est beaucoup de motivation en plus et je suis super contente de faire ça parce que j'ai toujours eu envie de créer des objets, quelque chose de tangible, de matériel, etc. Mais c'est beaucoup de travail, c'est encore plus de travail, je me lève encore plus tôt, je me couche encore plus tard, mais c'est pour la bonne cause, tu vois, c'est pour quelque chose que j'aime. Et peut-être que faut trouver aussi l'équilibre et que j'essaie d'être un petit peu plus souple avec moi-même dans le sens où là, je sais que c'est un peu plus compliqué de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc, si j'arrive pas à faire ma vidéo du mercredi, ok, c'est pas grave parce que j'étais en train de travailler sur mon autre projet et j'essaie aussi d'être un peu plus cool avec moi là-dessus. Et je pense que les gens le comprennent aussi. Les gens comprennent que même si j'ai une équipe derrière, etc., j'ai pas non plus de community manager, j'ai pas une personne qui m'aide à filmer mes vidéos, quoi que ce soit, que je suis toute seule derrière le pôle créatif, qui est un pôle qui est quand même énorme. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté super indulgente, qui comprend, en fait, et qui est excitée avec moi à l'idée que je crée cette marque et de voir les nouveaux produits et d'être impliquée dans le processus de création. Donc, ouais, un vent de fraîcheur. Et je trouve que c'est important de se renouveler aussi. Mais rien que pour nous. Tu vois, d'avoir de nouveaux challenges. Parce que lorsque tu stagnes, lorsque tu tournes en rond, tu as un peu de frustration de ne pas évoluer. Et je pense que l'humain a toujours besoin d'évoluer, toujours besoin de se fixer de nouveaux objectifs pour être super fier de lui et pour être dans la joie, heureux. Tu vois, cet esprit un petit peu âme d'enfant qu'il faut conserver, je pense, et qui te fait vibrer. Tu sais, je me réveille le matin, je me dis « Ah, trop bien, je vais travailler là-dessus et tout. Ça change. » Voilà.
Carrément, ouais, complètement. Et puis ça permet aussi d'avancer en soi et de rester connecté à cette joie, comme tu dis, clairement. Est-ce que, mine de rien, t'as eu des remarques ou des critiques ou des doutes parfois de je suis youtubeuse ou tu es youtubeuse et tu lances ta marque comme une énième influenceuse de je sais pas quoi. Est-ce que t'as eu des retours comme ça ou des peurs, toi, qu'on te dise ça?
Non. Aucune. J'ai eu aucune remarque de ce genre parce que, justement, j'ai été super transparente sur le pourquoi j'avais envie de faire ça, comment j'allais le faire. Et le fait, aujourd'hui, d'être tout à fait ouverte à parler de « Ok, regardez qui sont mes fournisseurs, regardez comment c'est fait, etc. » Je pense que les gens ont compris que ça partait d'une démarche sincère et que j'étais pas là pour faire de l'argent sur leur dos, et que c'était quelque chose qui était abouti, tu vois, c'est pas un livre que j'ai sorti en 2 mois, pas du tout. Et donc les gens, je te dis, j'ai vraiment pas beaucoup de haters dans ma communauté, parfois t'as 2-3 petits commentaires qui se baladent, on se demande pourquoi les gens sont tombés sur ma chaîne. Mais non, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté de personnes qui me soutiennent, qui sont là, qui sont hyper encourageantes. Et je pense que peut-être que ça les motive aussi de voir que, ok, j'ai des rêves, mais je les concrétise et je les transforme en objectifs. Et ça reste pas juste une petite idée dans le coin de ma tête, et que je le fais vraiment et que je leur montre le processus. Donc non, j'ai vraiment eu aucun message de personne qui me disait une marque de plus parce que c'était différent, c'était pas il y avait une valeur ajoutée et j'ai pas pris un produit tout fait en mettant Maison Tuféry dessus. J'ai vraiment créé de A à Z et je pense que ça a dû faire la différence aussi.
Carrément, c'est même certain. On arrive à la fin de notre bel échange, j'ai quelques dernières questions pour toi.
Bien sûr.
Est-ce que tu as une prise de conscience de ces dernières semaines, ces derniers mois qui t'a un peu chamboulé, secoué et que tu portes encore en toi et que tu aimerais partager?
Une prise de conscience.
Ouais, ou une nouvelle habitude, tu vois, que tu as, entre guillemets, enfin mis en place, ou un déclic, quel qu'il soit.
Écoute, je pense que il se passe tellement de drames dans le monde aujourd'hui, tellement de guerres, tellement de trucs horribles, inhumains et qui font mal au cœur, que tu peux t'enfermer là-dedans, t'enfermer dans les médias, et bien sûr qu'il faut s'informer, mais je trouve ça important aussi de continuer à justement cultiver cette âme d'enfant dont on parlait tout à l'heure, et garder cette joie de vivre, malgré tous les drames, malgré tout ce qui se passe dans le monde, de réussir à vivre avec cette petite étincelle, avec cette petite joie, et de cultiver cette âme d'enfant qui nous fait vibrer et voilà, qui fait qu'on avance en étant un petit peu plus heureux et joyeux dans la vie.
Ouais, carrément. Autre question, qu'est-ce que tu as osé de plus grand pour toi? Qu'est-ce que t'es fière de t'être autorisée que la Marie d'il y a quelques mois, quelques années n'aurait pas forcément osé?
Elle est dure ta question, parce que justement, ouais, j'ai eu la chance d'avoir une éducation super positive qui m'encourageait dans ce que je voulais faire. J'ai jamais eu des parents qui m'ont dit « Ah, fais attention, tu pourrais te faire mal » ou alors « Ah, fais attention, tu pourrais ne pas être capable de faire ça ». Ils m'ont toujours poussée dans tous mes rêves et dans tous mes objectifs à me dire « Oh là là, t'es la meilleure », etc. Et tu sais, je pensais à un truc la dernière fois, au fait que tu sois parfois limitée quand t'es une femme. Dans la vie active ou quoi, mais moi c'est complètement l'inverse, et je pense que c'est parce que lorsque j'étais petite, j'ai appris, enfin on m'a toujours dit que mon père voulait une fille, et tu sais, le fait d'avoir cette validation par ton père depuis toujours, ah, mon père il voulait un enfant, il voulait une fille, tu vois ce genre de truc,
et ouais, j'étais désirée pour pleinement quoi, ouais,
pleinement, dès l'éducation ça te donne une force, ah oui, pourquoi il voulait une fille plutôt qu'un garçon, c'est génial, et du coup je suis une fille, trop bien. Et donc si tu veux, j'ai toujours eu cette impression que j'avais comment dire, une force supplémentaire grâce à mon éducation qui m'a toujours poussée à oser rêver et accomplir mes rêves.
Génial, et bah tant mieux, et si ça peut être dispersé autour de toi, c'est aussi hyper important.
Ouais, j'espère que je pourrais faire ça avec mes enfants aussi, leur donner la force de croire en eux et de pas se mettre de limites et de fausses croyances. Mais bon, on en a tous.
Ouais, oui, on fait de son mieux, je pense, en tant que parents. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ton aventure entrepreneuriale qui t'a marqué, qui voilà, t'a secoué ou qui t'a apporté beaucoup?
Bah, mon agente, hein, bien sûr. Mon agente Léa qui est toujours là à me booster, qui est formidable et qui tous les jours me redonne un petit peu de motivation, de confiance en moi, qui croit en mon projet, qui croit en ce que je fais et qui est persuadée que j'aide les gens et que ce que je fais ça a une valeur, un impact. Donc j'ai la rencontre avec Léa.
Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote sur toi un peu loufoque ou pour ton aventure entrepreneuriale que tu n'as jamais partagée ou très peu et que tu pourrais nous déposer là maintenant?
Alors, si tu veux, je te raconte l'histoire de la marque que j'ai créée de A à Z mais que j'ai jamais lancée.
Carrément. Je veux savoir.
Ok, alors, il y a 5 ans, je pense, je me lance dans une marque de skincare. Parce que lorsque j'étais adolescente, j'avais pas mal d'acné et je voulais bien sûr soigner cette acné et ensuite j'avais des marques. Mais aucun produit sur le marché n'a réussi à me faire estomper ces marques-là. Donc, je me renseigne, etc. Je me rends compte que les huiles végétales et les huiles essentielles pourraient fonctionner. Je fais plusieurs tests et j'arrive à ma propre petite mixture qui fonctionne super bien. Et qui, oh regarde, ça fait des cœurs dans les
c'est trop mignon.
et qui me fait partir mes traces d'acné super rapidement, etc. J'en reviens pas, tu vois. Et je me dis, ok, je veux aider les gens, je veux aider ma communauté. Je sais que beaucoup de personnes souffrent de ça. Je vais lancer mon produit. Donc, je m'associe avec une personne dans l'artisanat au début, qui faisait des savons, etc. Sophie, qui était vraiment adorable. Et je lui dis, viens Sophie, j'ai trop envie de faire ce produit. Donc, je paye tout, hein. Je paye les tests produits, je paye le packaging, je dépose mon nom. Mon nom se fait refuser par Guerlain, qui me dit « Non, mademoiselle, votre nom est trop proche d'un de nos produits. » 2 jours avant la durée légale, tu sais, à laquelle on peut contester un nom de marque. Donc, je suis là « Oh, c'est pas possible. » Dégoûtée. Donc, si ouais. tu veux, faut que je repense tout ça. Il m'arrivait que des galères pour ce projet-là. Et je me suis dit, ok, est-ce que je dois persévérer? Est-ce que c'est un appel qui pousse justement à la rigueur et à persévérer? Ou est-ce que c'est pas justement des petits signes qui me disent doucement? Donc, je continue, je crée ces produits-là, je trouve la formule parfaite, etc. Et je me dégonfle totalement au dernier moment parce que je me dis, je pourrais pas supporter l'idée que des personnes aient des allergies à mon produit. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens, mais je ne veux pas le revers de la médaille et que certaines personnes aient des réactions. J'aurais pas pu, si tu veux, émotionnellement, dealer avec ça. Même si je sais que ça aurait aidé beaucoup de personnes, je pouvais pas faire un produit risqué. Et donc, j'ai tout abandonné pour ça parce que je savais que j'allais recevoir des messages de personnes qui allaient me dire « Oh, regarde l'état de ma peau, ça m'a fait une réaction allergique » parce qu'il y avait des huiles essentielles en plus dedans. Donc, ça convient pas à tout le monde non plus. Et je me suis déballonnée, voilà. J'avais tout fait.
Et c'est resté quand même dans un coin de ta tête? Tu te dis peut-être un jour quand même ou t'as tiré un trait?
Je pense que j'ai tiré un trait. Parce que j'ai eu tellement de galères justement entre le nom, entre la composition, entre la stabilisation de la formule, etc. Je me suis dit non, en fait, c'était trop éprouvant émotionnellement. Et on revient au tout début du podcast où je te disais que faut que ton aventure entrepreneuriale te procure de la joie et que tu te réveilles tous les matins en étant excitée. Et pas en ayant cette boule dans la gorge et te dire, oh là là, je vais faire du mal à des gens sans le vouloir, etc. Voilà, c'était trop dur pour moi de faire du skincare pour ça. J'avais pas les épaules assez larges pour supporter que j'allais décevoir certaines personnes. Enfin, pas décevoir, mais que j'allais impacter négativement la vie de certaines personnes. Donc, je me suis dit, ok, faut que je reste fidèle à mes valeurs et que je reste honnête envers moi-même et que je reste juste. Et je me suis dit, avec un planeur, je ne vais impacter personne négativement, au contraire. Voilà.
Ouais, carrément, t'as raison. C'est hyper important d'apprendre à se connaître, de connaître sa personnalité, qu'est-ce que je peux porter, se challenger et en même temps se préserver aussi et ne pas se mettre dans des étapes impossibles pour des choses qu'en plus on ne maîtrise pas, même quand on fait du mieux qu'on peut.
Et savoir abandonner. Je trouve que c'est important aussi de se dire, ok, j'ai fait ça de A à Z. Maintenant, est-ce que c'est plus important pour moi? Est-ce que c'est plus douloureux pour moi de perdre un petit peu d'argent ou de perdre la confiance de certaines personnes, de les impacter négativement, etc. Et je me suis rendu compte que ce projet était plus aligné avec moi-même et que j'avais trop peur, quoi. Donc je me suis dit, ok, laisse-toi la possibilité de lâcher prise là-dessus, d'abandonner. Et mais ça, l'histoire, j'ai jamais raconté à personne.
Bah merci pour cette exclusivité.
Avec grand plaisir.
C'est hyper intéressant et effectivement hyper important de savoir dire stop. C'est
exactement.
Ok, j'ai mis beaucoup.
C'est ok.
J'ai énormément appris aussi, j'ai grandi et j'accepte de tourner la page et d'aller vers autre chose. Et aujourd'hui, avec Maison Tuféry, tu nous montres bien que c'est pas parce qu'il y a une marque, un truc qui a pas marché une fois, que le reste ne marchera pas. Et je pense que la suite, d'après ce que tu me dis,
c'était un coup d'essai. C'était important aussi d'avoir ce petit préambule. Je pense à l'entrepreneuriat commencer à travailler avec des gens, etc., voir comment ça se passe et de me dire, ok, non, je vais continuer riche justement de toutes ces aventures, de toutes ces galères. Il y en a eu d'autres hein, avec le planeur, mais au moins je peux porter le fardeau de certains SAV pas contents.
Voilà. Carrément, ouais. C'est bête, mais c'est hyper important effectivement de développer cette compétence-là aussi, d'accepter la déception, les messages pas forcément hyper agréables, parce que la personne c'est pas comme elle se l'était imaginé elle, et nous on a beau faire du mieux qu'on peut avec tout l'amour du monde, parfois ça se ressent pas de la même manière de l'autre côté, et ça bah c'est triste, mais c'est comme ça.
Totalement. Bon. C'est la magie de travailler avec des humains, et c'est génial.
Ouais. C'est passionnant. On est passionnant. On est magique. Bref. Merci pour tout ça, Marie. Merci pour tous ces partages, pour tous ces conseils, pour ces anecdotes aussi.
Merci.
Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin ou quelque chose que tu aurais aimé partager que tu n'as pas pu?
Dernier mot de la fin. Ne soyez pas pudique à dire je t'aime. Je trouve que c'est hyper important de le dire vraiment, de le montrer avec des gestes, bien sûr, mais aussi de le dire. Parce qu'on a toujours un petit peu cette pudeur de « Ah, je sais pas si j'ose dire je t'aime à mes parents, je sais pas si mais un jour il est trop tard et voilà, faut dites je t'aime aux gens que vous aimez vraiment. »
Merci. Merci Marie. Je mets tous les liens pour te retrouver dans les notes de l'épisode, sous la vidéo ou sous le podcast.
Yes, merci Pêche.
Merci Marie, à bientôt.
À très vite, bye.
Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspiré par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous, dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, autorisez-vous.